Leçon numéro 60. Le prophète Jean. Assalamu alaikum, amis qui êtes à l'écoute. Nous vous saluons au nom de Dieu, le Seigneur des paix, qui veut que chacun comprenne et se soumette au chemin de la justice qu'il a établi et qu'il ait pour toujours la paix véritable avec lui. Nous sommes heureux de pouvoir revenir aujourd'hui vous présenter votre émission Le chemin de la justice. Avec notre dernière émission, nous avons fini notre exploration de la première partie des Saintes Écritures, partie dans laquelle se trouvent la Torah, le Zabour et les écrits des prophètes. Cette première partie s'appelle la Première Alliance. En français, on l'appelle aussi l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude de la deuxième partie de la parole de Dieu qui s'appelle en français le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance. Pourquoi Dieu a-t-il divisé son livre saint en deux parties, la Première Alliance et la Nouvelle Alliance? En voici la raison. Tout ce que les prophètes ont écrit dans la Première Alliance, ils l'ont écrit avant la naissance du Messie. Mais tout ce qui se trouve dans la Nouvelle Alliance a été écrit après la naissance du Messie. Le message des prophètes de la Première Alliance était « Dieu va envoyer le Messie ». Par contre, le message de la Nouvelle Alliance est « Dieu a envoyé le Messie comme il l'avait promis par ses prophètes ». Est-ce que l'importance de la Première Alliance et l'importance de la Nouvelle Alliance sont claires pour vous? C'est très important, car certaines personnes critiquent les Saintes Écritures parce qu'elles contiennent un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Dans la pensée de ces gens, Nouveau Testament signifie que certains ont essayé de remplacer les écrits des prophètes par un autre livre. Mais ce n'est pas ainsi qu'il faut le comprendre. Le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance, n'annule pas ce que les premiers prophètes ont écrit. Au contraire, il montre comment Dieu a accompli les paroles des prophètes. Car dans l'Ancien Testament, tous les prophètes ont annoncé « Le Messie va venir, il viendra, il viendra ». Mais le message du livre de la Nouvelle Alliance, c'est « Le Messie est venu, il est venu ». Le Messie que tous les prophètes ont annoncé depuis tellement longtemps est venu. Chers amis, nous pouvons remercier Dieu d'un cœur plein de joie parce qu'il y a dans les Saintes Écritures une première alliance et une nouvelle alliance. Car dans ces deux parties, nous pouvons voir que ce que Dieu a annoncé si longtemps auparavant, il l'a aussi accompli. Dieu nous a envoyé un sauveur comme il l'avait promis à nos ancêtres dans la Torah, le Zabour et les écrits des prophètes. Comme la graine de pain de singe germe et se transforme en baobab, de même la première alliance arrive à maturité dans la nouvelle alliance. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, la deuxième partie des Saintes Écritures, c'est-à-dire la nouvelle alliance, a un autre nom. Ce nom, c'est l'Injil. Injil est un mot arabe qui veut dire la bonne nouvelle. Et le message de l'Injil est effectivement une bonne nouvelle, parce qu'il raconte comment le Messie a accompli ce que les prophètes avaient annoncé, ouvrant ainsi aux enfants d'Adam une porte vers la paix éternelle avec Dieu. En ce qui concerne l'Injil, vous devez savoir que ce n'est pas le Messie lui-même qui l'a écrit. Mais Dieu a utilisé quatre hommes pour écrire l'histoire du Messie venu sur la terre. Ces quatre hommes s'appellent Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourquoi Dieu a-t-il inspiré quatre hommes à écrire l'histoire du Messie? Pourquoi n'a-t-il pas employé juste une personne pour écrire l'Injil? Parce que Dieu voulait communiquer une parole, un message au-dessus de tout soupçon et digne d'être pleinement accepté. Dieu a utilisé quatre rédacteurs afin de confirmer sa parole. Tout comme une table à quatre pieds est plus stable qu'une table à un seul pied, quatre témoins sont plus fiables qu'un seul témoin. C'est pourquoi Dieu a utilisé quatre témoins, afin que nous sachions que tout ce qui est écrit dans l'Injil au sujet du Messie est absolument vrai. De même que Dieu avait mis ses paroles dans l'esprit des premiers prophètes, Dieu a aussi inspiré quatre hommes qui ont vécu à l'époque du Messie pour qu'ils écrivent ce qu'ils ont vu et entendu concernant le Sauveur du monde. Savez-vous en quelle langue Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit le Saint-Injil? Ils l'ont écrit en grec. Nous allons le lire en français, car la plupart d'entre nous ne comprennent pas le grec. Nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait en mettant à cœur à certains lettrés de prendre le texte grec de l'Injile et de le traduire en français et dans plus de 2000 langues parlées quelque part dans notre monde. Oh oui, nous entendons quelquefois des gens qui essayent de combattre l'Injile en disant « Personne ne peut se fier à l'Injile ». C'est plein de mots qu'on a changés et de fautes et de contradictions et ainsi de suite. Mais celui qui se bat ainsi contre le Saint-Injile se bat contre Dieu lui-même. Et un œuf ne se bat pas contre un caillou. Toutes les saintes écritures sont dignes de confiance. Tout comme la parole de Dieu est absolument parfaite dans la Taurate et le Zabour, ainsi elle est absolument parfaite dans l'Injile. Les saintes écritures sont sans faute. On ne peut pas falsifier la parole de Dieu. Dieu est grand et il est capable de protéger sa parole. Personne ne peut changer la parole vivante et immuable de Dieu. C'est ce que Dieu lui-même a déclaré dans l'Injile.
Matthieu chapitre 24, verset 25. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Et maintenant, chers auditeurs, le moment de commencer notre exploration de l'Injile et de la Nouvelle Alliance est arrivé. Dans notre dernière émission, nous avons parlé du prophète Malachie, qui a vécu 400 ans avant le Messie. Et il faut savoir que pendant les 400 années qui ont suivi l'époque de Malachie, Dieu n'a pas envoyé un seul prophète vers les Juifs pour prêcher et écrire la parole de Dieu. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé d'autres prophètes? Parce que le livre de la première alliance était complet. Dieu avait dit tout ce qu'il voulait dire par les premiers prophètes. Maintenant, Dieu attendait le temps où il allait établir la nouvelle alliance par la venue du Messie. Nous avons déjà lu les prophéties du prophète Ésaïe et du prophète Malachie concernant le plan de Dieu d'envoyer un prophète devant le Messie pour préparer le chemin devant lui. Savez-vous de quel prophète il s'agit? C'est le prophète Jean. Le père de Jean s'appelait Zacharie. Zacharie était un sacrificateur qui travaillait pour Dieu dans le temple de Jérusalem. Commençons maintenant notre étude de l'Injile et écoutons ce que Luc a écrit sur la naissance du prophète Jean. Nous lisons dans le premier chapitre. Les saintes écritures disent « Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, Zacharie fut désigné pour entrer dans le temple du Seigneur et pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors lui apparut un ange du Seigneur debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Moi je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le temple. À sa sortie, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il se mit à leur faire des signes et demeurait muet. Lorsque ses jours de service furent achevés, il retourna dans sa maison. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois en disant, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte parmi les hommes. » Nous voyons comment Dieu a envoyé son ange Gabriel vers Zacharie pour lui annoncer que sa femme Élisabeth allait avoir un fils qui allait être un grand prophète et qui allait préparer le chemin devant le Messie. Et à la fin du même chapitre, les Écritures disent « Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait manifesté envers elle sa miséricorde et se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent circoncire le petit enfant et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et il faisait des signes à son père pour savoir comment il voulait l'appeler. Zacharie demanda une tablette et il écrivit, « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit tous les habitants d'alentour et, dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler les prirent à cœur et dirent, « Que sera donc ce petit enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prophétisa en ces termes, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance, selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. » Après avoir dit cela, Zacharie s'est tourné vers Jean, le bébé, et il a dit à son sujet. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. C'est ainsi que Zacharie a loué Dieu après la naissance de Jean, parce qu'il savait que le moment de l'avènement du Messie était arrivé. Jean, le fils de Zacharie, n'était pas le Messie. Mais il était celui qui allait venir avant lui pour annoncer son arrivée et pour préparer le chemin devant lui. Merci de nous avoir écoutés. S'il plaît à Dieu, dans notre prochaine émission, nous verrons comment Dieu a envoyé son ange Gabriel vers une vierge appelée Marie pour annoncer la naissance du Messie. Que Dieu vous bénisse. Et réfléchissez bien à ce que Zacharie a dit.
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a procuré une pleine délivrance, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles.